bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
En écoutant et en lisant ces discours, on se rend compte que Paul est un peu désabusé, mais qu'en même temps, il doit conserver la ligne de défense. Il n'a qu'une hâte, hein, vous l'avez entendu, c'est de quitter ces lieux où rien ne peut passer. Alors, vous avez vu pendant tout cet épisode dont parle Luc, dans les Actes des Apôtres, on ne fait plus allusion à la communauté de Jérusalem, c'est-à-dire à Pierre, à Jacques, à tous les autres apôtres. Non, Paul est mis en exergue, la seconde partie des Actes des Apôtres est surtout consacrée à Paul, c'est de Paul qu'il s'agit, il est seul. On est même un peu surpris de ne pas... Enfin, moi, je le suis en tout cas, de ne pas voir une délégation explicitement définie des frères de Jérusalem, Pierre en tête, à la limite, venir lui rendre visite. Peut-être l'a-t-il fait, en tout cas, Luc n'en parle pas. Paul est vraiment laissé à lui-même. J'en arrive à me demander, mais c'est parce que je suis une mauvaise langue, si ça n'est pas voulu. Si Paul embête tout le monde. Et s'il était liquidé par d'autres personnes, peut-être que la communauté primitive de Jérusalem ne s'en sentirait pas plus mal. Elle n'a pas la vocation missionnaire, elle n'a pas la vocation de convertir le monde romain. Elle se contente de continuer un judaïsme. Si Paul n'avait pas été là, peut-être se serait-il passé, enfin, il se serait passé certainement autrement. L'Église aurait été fondée d'une façon tout à fait différente. Cette dimension centrifuge, donc qui fuit le centre pour aller vers l'extérieur, qui a donné à l'Église catholique romaine cette dimension missionnaire. Mais vous devez trouver comme moi que si Luc ne fait pas allusion à quoi que ce soit, c'est que peut-être rien ne s'est passé, en tout cas ses enquêtes ne l'ont pas amené à voir, à entendre, à avoir la preuve que des chrétiens de Jérusalem, dépendant de Jacques et de Pierre, aient envoyé une délégation, ne serait-ce que pour aller réconforter Paul dans sa prison césarienne.
La voix de Paul était étrangement calme, comme s'il parlait d'un autre, qui n'était plus depuis longtemps. Mais la tonalité changea quand il entama l'épicentre de son aventure. « C'est ainsi que je me rendais un jour à Damas, avec plein pouvoir et mandat spécial des grands prêtres. J'étais en chemin, ô roi, lorsque je vis venir du ciel, plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppa de son éclat, ainsi que mes compagnons de route. » Nous sommes tous tombés à terre, et j'entendis une voix me dire en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Il t'est dur de te rebiffer contre l'aiguillon. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur reprit, « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, debout sur tes pieds. Voilà pourquoi je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je te délivre par avance de toutes les prisons à venir, celles du peuple juif et celles des nations païennes vers qui je t'envoie. C'est pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et partage l'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. » L'émotion se sentait dans le corps entier de Paul. C'était la bascule de sa vie qu'il relatait là. « Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à cette vision céleste. Bien au contraire, aux gens de Damas d'abord et de Jérusalem, dans tout le territoire de la Judée, puis aux nations païennes, j'ai annoncé qu'ils avaient à se convertir et à se tourner vers Dieu, et en vivant, bien sûr, en conséquence. C'est la raison pour laquelle des Juifs m'ont appréhendé, alors que je me trouvais dans le temple, essayant d'en finir avec moi. Fort de la protection de Dieu jusqu'à ce jour, je continue donc à rendre témoignage devant petits et grands. » À ce moment, c'est le docteur qui se mit à parler, l'élève de Gamaliel, le pharisien qu'il était toujours resté. « Les prophètes et Moïse ont prédit ce qui devait arriver, et je ne dis rien de plus. Le Christ a souffert, et lui, le premier, est ressuscité d'entre les morts. Il doit annoncer la lumière au peuple juif et aux nations païennes. » À la surprise générale, Festus intervint en haussant la voix. « Tu es fou, Paul ! Avec tout ton savoir, tu tournes à la folie !» Paul ne se laissa pas démonter. « Je ne suis pas fou, excellent Festus. Je dis ici le langage de la vérité et du bon sens. Le roi à qui je m'adresse en toute assurance est assurément au courant de ces choses, et je suis bien persuadé que rien ne lui en échappe, car ce n'est pas dans un coin perdu que ces événements se sont passés. » Alors, l'apostrophant personnellement, « Tu crois au prophète, roi Agrippa ? Je suis sûr que tu y crois. » Agrippa voulut esquiver par l'humour l'implication dans laquelle Paul le tirait. « Encore un peu et tu vas me persuader que tu as fait un chrétien de plus. »« Encore un peu ou encore beaucoup ?» enchaîna Paul. « Plus à Dieu que non seulement toi, mais aussi tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez exactement ce que je suis, sans les chaînes que je porte. » L'humour tragique de la chute n'empêcha pas le roi de se lever, sans un mot, sans un regard, ainsi que le gouverneur Bérénice et ceux qui siégeaient avec eux. Hors du tribunal, ils devisèrent de conserve. « Cet homme ne fait rien qui mérite la mort ou les chaînes. » Agrippa eut le mot de la fin, histoire de s'en débarrasser. Il pouvait être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur.
Et oui, s'il n'avait pas appelé à l'empereur. Être relâché, ça voulait dire, donc, retourner en ville, sans escorte, sans protection, et retomber sous le coup des sicaires, et l'affaire Paul serait classée, que Paul ne serait pas allé à Rome, et Paul n'aurait pas entamé le chemin missionnaire qui l'emmènera, puisqu'on ne sait pas très très bien où il est mort, vers l'Empire et les frontières de l'Empire. Mais cette deuxième évocation, chez Luc, dans les Actes, de son chemin de Damas, avec l'émotion qu'il étreint, est l'un des plus beaux témoignages que nous ayons de sa conversion. L'émotion, on l'a pris parce qu'il se souvient, tout en parlant, il se remémore toutes les preuves qu'il a, dans sa vie, reçues de la part de Jésus de Nazareth. C'est ce qu'il dit. Il fait ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, un témoignage. Les communautés charismatiques aiment bien faire cela. Eh bien, il est rentré là-dedans. Il fait son témoignage. Mais alors, l'astuce demeure parce que Paul ne peut pas s'empêcher d'être intelligent. On peut être chrétien et n'être pas bête. C'est le cas de Paul. Et il a devant lui, naturellement, Agrippa qui est juif. Et il va s'adresser directement à lui, alors que Festus, lui, dit, mais enfin, tu déraisonnes, que fais-tu là? Hein, lorsque tu es fou, avec tout ton savoir, tu tournes à la folie, lui dit Festus. Non, non, je ne suis pas fou, excellent Festus. Et se tournant, ça c'est tout à fait le style de Luc, il parle d'un côté, et se tournant tout d'un coup vers l'autre, c'est la même façon de procéder dans le style du paralytique dans l'évangile de Luc. Que dit-il? Eh bien, il s'adresse directement à Agrippa, qu'il veut faire entrer dans la conversation, et en fait, il veut l'impliquer. Voilà. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu crois au prophète, roi Agrippa? Plus clair que ça, tu meurs. Hein? Je suis sûr que tu y crois. Et il ne pouvait pas faire autrement, puisqu'il était juif. Alors, Agrippa ne sait plus quoi faire, on le voit dodeliner de la tête, regardant à droite, regardant à gauche, tu dis encore un peu, et puis tu vas faire de moi un chrétien. Encore un peu! Paul ne les amorce pas, ça monte. Encore un peu ou encore beaucoup? C'est ce que je souhaite. Et voilà le missionnaire qui n'a plus peur de quoi que ce soit, puisqu'il a livré sa vie au Christ. Oui, et j'aimerais bien que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, que vous deveniez exactement ce que je suis, et l'humour est là parce que c'est dur, et puis c'est quand même risqué. Mais sans les chaînes que j'ai, alors tout le monde sourit, puisqu'il est prisonnier, etc. Mais quand les gens sont concernés directement, et appelés directement par leur nom pour prendre position, ils sont gênés surtout quand ils sont dans une position dite de responsabilité. Ça vaut encore maintenant. Quel que soit, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la religion, que ce soit ailleurs, dès qu'on implique quelqu'un, non plus en tant qu'eux, mais en tant que personne de responsabilité à qui on dit, et vous, personnellement, qu'est-ce que vous croyez? Quelle est votre position? Oui, je ne suis pas ici jugé parti. Enfin, on ne sait pas quoi dire, il se lève. Bérénice suit. On sort. Et c'est dans le couloir du palais, devant la mer, j'imagine, la scène. Qu'ils se disent, on pourrait tout à fait s'en débarrasser nous-mêmes en le relâchant, parce que ce sont des histoires de religion, on n'a pas à se mêler, l'État n'a pas à se mêler. Oui, mais et voilà, on pourrait le relâcher, mais si on n'avait pas appelé à César. Et de là, nous allons prendre le bateau et partir vers Rome.
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.